Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Hors champ, ce soir, en compagnie de Benoît Groult. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous décrire, car à la radio, on ne peut voir votre élégance. Vous êtes arrivé dans ce studio, légèrement maquillé, avec de très belles mains, une très jolie bague translucide, un pull beige, vert et blanc cassé, et en dessous de ce pull, un chemisier assorti du même vert que le pull, et un beige en bas, côté bas, pantalon, qui s'assortit en haut. Pourquoi tant d'élégance ?
Mais vous savez, au fond, je suis plus élégante maintenant qu'il y a 30 ans. Mais c'est sans doute un atavisme. Je suis la nièce de Paul Poiret. Ma mère avait une maison de couture. J'ai détesté la mode à 20 ans. Mais en avançant en âge, j'étais moins timide. Et je m'habille beaucoup mieux maintenant. Je me soucie de ma tenue. Il faut bien se distraire.
Vous avez beaucoup d'autres sources de distraction.
Oh, j'en ai perdu beaucoup tout de même. En vieillissant, il y a les choses qu'on ne peut plus faire. Je fais encore de la bicyclette. Mais bon.
Vous êtes venu en Vélib ?
Non, je ne suis pas venu en Vélib, puis j'ai mon propre vélo depuis longtemps. Je vais chez mon éditeur à vélo souvent, parce qu'il est dans mon quartier. Il est terrorisé. Je lui dis, vous avez peur de perdre la poule aux œufs d'or. Je lui dis, vous faites du vélo à votre âge à chaque fois. Il me conseille la prudence, mais...
La poule aux œufs d'or, c'est vrai, parce qu'effectivement, votre dernier livre a été un succès absolument phénoménal.
L'avant-dernier encore plus, La Touche Étoile, plus que mon autobiographie.
Parce que ça devait correspondre à un sentiment que les Français éprouvaient au fond de leur cœur, c'est-à-dire que nous vivons dans une société, comme l'a titré un journaliste en faisant votre portrait, une société où on pratique aisément et mine de rien, et à chaque instant, le délit de vieillesse.
Oui, c'est vrai qu'on devient une femme invisible. On ne regarde plus dans la rue, personne. On ne devrait plus être là même. C'est tout juste quand je prends le métro le soir que je reviens du cinéma. Sur le quai du métro, il n'y a que des jeunes qui s'interpellent d'un quai à l'autre. J'ai l'impression que je pourrais tomber sur la voie, ils me pousseraient, ils n'auraient même pas vu. Le regard s'échappe. On est vraiment la femme invisible.
Et pourquoi ?
C'est extrêmement désagréable. Mais je crois que la vieillesse n'intéresse personne. Et puis, c'est inquiétant pour tous les jeunes. Tous ces gens qui vont vivre jusqu'à 120 ans. Comment ils vont les entretenir ? Où ils vont les mettre ? Et quand c'est une vieille arrière-grand-mère, qu'il faut aller la voir le dimanche, je suppose qu'on doit nous prendre en grippe. C'est affolant, ce changement d'équilibre de la société.
Mais vous, on ne vient pas vous voir le dimanche ?
Mais je ne suis pas encore en maison de retraite. Parce que j'ai la chance justement d'avoir continué mon métier. Personne ne m'a dit à 70 ans, vous posez votre stylo, c'est fini, vous êtes en retraite. J'ai encore pas mal de lectrices, je ne suis pas en retraite.
Alors des lecteurs ça me donne aussi, hein, ne croyez oui. pas. Les hommes aussi s'intéressent à vous, Benoît.
Pas les miens. Mes filles, oui. Mais pour mes petites filles, par exemple, sous prétexte que je passe toute la journée sur un ordinateur, sur un portable, que je ne sais pas envoyer un SMS, elles me considèrent comme... Une has-been, c'est le Moyen-Âge. Elles me disent quelquefois, mais alors vous n'aviez pas la pilule de ton temps ? Ce qui prouve qu'elles n'ont pas lu mes livres. Elles ne savent pas que moi je suis née avec zéro droit, que j'ai vu tout arriver, un par un, mes droits, pendant toute ma vie, compris le droit à la contraception, à l'IVG. Et elles sont nées avec tous les droits dans leur berceau et elles croient que nous sommes mortes depuis longtemps, nous qui avons conquis ces droits.
À vous, votre identité de femme, on a l'impression, en lisant vos livres, Benoît Groult, que vous l'avez construite progressivement, mais qu'elle s'est faite aussi, peut-être, grâce à une mère absolument incroyable, d'une liberté de ton, d'une liberté de mœurs, d'une joie de vivre qui vous a quand même si elle vous a élevé, votre sœur et vous, dans les canons de la société bourgeoise, elle vous a quand même donné l'exemple qu'on pouvait transgresser ses codes.
Oui, exactement. Et d'être aimée par son mari, toute sa vie, alors qu'elle a évidemment eu d'autres amours.
Elle a eu des amants, manifestement.
Oui, on le savait vaguement, sans qu'elle nous le dise, mais elle était toujours brillante, tapageuse, n'avait qu'une peur dans la vie, c'est qu'elle vienne me chercher à la porte de l'Institut Sainte-Clotilde, très catholique, Faubourg Saint-Germain, où j'ai fait toutes mes études, sauf la philo. Mon père a tout de même obtenu que j'aille dans un lycée laïque pour la philo, à Victor Duruy. Mais je me dis, si elle arrive à l'école me chercher, toutes les filles vont la regarder. Elle a des talons aiguilles qui font un bruit terrible. Elle avait un manteau de singe, je me souviens, avec des poils partout. C'était pas du tout le genre des dames, des mères des élèves qui tricotaient leurs chaussettes pour leurs filles, qui étaient comme il faut et qui ne travaillaient pas. Qui avaient des maris qui travaillaient pour elle, alors que ma mère a tout de suite voulu travailler, ce qui était mal vu finalement.
Cependant, elle a voulu éduquer ses filles selon les préceptes appliqués à cette période-là, c'est-à-dire vous êtes destinée à...
Au mariage.
Eh bien, justement, on a préparé une petite chanson pour vous.
Ah.
Vous l'écoutiez, cette chanson, elle a plutôt l'air de vous irriter, là, vous froncez les sourcils, Benoît.
Je trouve ça tellement minable, et c'est vrai que c'est ce qu'on attendait des jeunes filles. C'est-à-dire que si j'avais eu un grand talent, si j'avais voulu être chanteuse, si j'avais été tapageuse et mauvaise genre, ma mère m'aurait poussée. Mais elle trouvait que j'avais pas de talent, elle l'a écrit dans son journal, que j'ai retrouvé 20 ans après. Donc il fallait que je me marie, c'était le seul destin. Or, la guerre est arrivée, j'avais 18 ans. Pas de prince charmant à l'horizon, ni même de roturier, ni personne, il n'y avait plus d'hommes en France. Alors, à 24 ans, j'étais pas mariée, c'était l'échec total.
Et elle m'avait donné c'était grave à l'époque de ne pas être mariée quand on avait 24
je
balais.
Je coiffais Sainte-Catherine, on n'y pense même plus.
Moi, des Catherinettes.
J'ai dit à mes filles, j'ai
et on mettait
filles.
Des bonnets hein, sur les têtes des filles quand
j'avais
on n'était pas mariée.
J'avais dit à mes filles, n'épousez pas. Connaissez les hommes avant, sachez ce que c'est que de vivre avec un homme, comment il est, à la maison, à la cuisine, au lit, enfin tout. Alors que nous, nous épousions un inconnu qu'on rencontrait au bureau, si on travaillait, ce qui était mon cas tout de même. Je travaillais à la radio, j'étais professeur avant, et on ne savait pas qui on épousait. Alors, ma première expérience a été catastrophique. C'était Georges de Caunes, d'ailleurs, un homme de radio.
Un bel homme.
Très brillant, très bel homme. Chaque fois que je l'ai revu dans ma vie, parce qu'on a eu deux enfants, évidemment, en deux ans, puisque c'était la nécessité de l'époque, les fatalités de l'époque, chaque fois que je le voyais, on déjeunait ensemble, me disait « Il est beau, je comprends pourquoi je l'aime ». Au dessert, je me disais « Mon Dieu, je comprends pourquoi j'ai divorcé ». Parce qu'on ne s'entendait sur rien. Il aimait le rugby, la corrida, moi c'était le tennis et le ski. Alors, si on ne fait rien ensemble, eh bien, sauf des enfants, ça ne va pas.
Avant le mari, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des petites aventures amoureuses. Vous parliez de la guerre. Oui. Mais au moment de la libération, vous nous expliquez dans vos livres qu'il y a eu une période, et d'ailleurs c'est très peu raconté dans les livres d'histoire, une période assez érotique avec ces jeunes Américains qui débarquaient à Paris Et qui était plus que sexy.
Oui, surtout que j'étais veuve à ce moment-là, puisque j'ai épousé un étudiant en médecine en 44 qui est mort de tuberculose moins d'un an après. Alors j'étais plus chez papa-maman, j'avais mon domicile. Et comme on parlait anglais, ma sœur et moi, on s'est engagé comme hôtesse pour faire visiter Paris, théoriquement, aux Américains, les inviter à la maison, leur montrer ce que c'était qu'une famille française, etc. Et puis évidemment, ce qui nous intéressait, c'était cigarettes, whisky, chocolat, lait concentré, ce qu'on n'avait pas eu pendant 4 ou 5 ans, puis des beaux soldats bien nourris par les soldats de notre défaite, par les prisonniers qui rentraient, par toute la tristesse de la France. Tout revivait en France et mon deuil finalement a été balayé avec la défaite et tous les drames de 40-44. Et j'ai connu des Américains qui restaient pas longtemps. Alors, il n'y avait pas besoin de les séduire, ils ont passé une soirée merveilleuse. Et j'ai vécu ma vie de jeune fille que j'avais jamais vécue finalement.
Vous venez d'évoquer, Benoît de Groult, le souvenir de votre premier époux qui est mort dans des conditions tragiques.
Oh, mais la tuberculose, comme tant de jeunes de cette époque.
Oui, mais enfin, si jeune,
oui,
et foudroyé si rapidement. Et là, vous avez décidé, quand vous avez compris qu'il allait mourir, vous avez décidé de faire une chose absolument incroyable. Vous avez appelé son frère.
Oui, c'est difficilement compréhensible, mais j'en suis presque fière maintenant. Parce que j'avais avorté 3 semaines avant mon mariage. Je savais qu'il avait déjà été malade. Je me disais, si je suis enceinte, je ne pourrais pas le rejoindre au sanatorium. Il mourra peut-être cette fois. Enfin, c'était toujours le risque. Il a subi une opération terrible et il en est mort. Alors, il était jeune médecin, son père aussi, médecin des hôpitaux. Et il m'a dit, je connais un médecin qui te fera ça dans son cabinet. Puis au moins, tu es tranquille. Mais pas un mot. J'avais un petit verre de cognac à côté de moi. Il m'avait dit, j'ai mes clientes à côté, si vous criez, j'ai l'air d'être un bourreau. Silence total, et vous buvez un petit verre de cognac si vous en avez besoin. Mais au moins, je savais que ce serait un curetage bien fait, que je ressortirais toute neuve et que je pourrais me marier en blanc 3 semaines après. Je ne l'avais pas dit à mes parents, je l'avais dit à mon beau-père. Donc j'étais très liée à ma belle famille. Et quand il est mort, le fils aîné, Pierre Heuillère, eh bien, je me disais, il était fils d'une Russe. Le romantisme russe, je me suis dit, j'aurais eu un enfant demi-russe, quart de russe, ça m'aurait bien plu. Et j'ai pensé que peut-être je pouvais encore rester liée à cette famille en ayant un enfant, celui que j'avais pas eu un an avant. Et j'ai dit à mon beau-père, et si je faisais l'amour avec son frère, qui est venu en permission pour l'enterrement de l'aîné? Il m'a dit, c'est une splendide idée. Cet homme de 70 ans, mais c'était la fin de la guerre, vous savez, la morale traditionnelle, tout était un peu secoué, on découvrait des choses pénibles et admirables aussi. Il m'a dit, vas-y, je le préviens, c'est extraordinaire. Et j'ai rencontré 2 fois le frère que je connaissais à peine, qui était pas beau, j'avais aucune attirance, c'était vraiment un acte sacré de fidélité à l'ancien mari. Et puis évidemment, moi qui étais enceinte si souvent sans le vouloir, là, ça n'a pas marché. Et pourtant, mon beau-père m'a dit, son second fils a été tué 15 jours après. Et mon beau-père m'a dit, à l'enterrement du second, j'ai perdu 2 fils en 1 mois, peut-être tu portes l'espoir de tous les deux. Je me disais, est-ce qu'on a fait quelque chose de beau, mais qui trompe la nature, qui est contre nature même? Et puis évidemment, la nature s'est vengée, et il ne s'est rien passé.
Vous avez évoqué la liberté de mœurs qui régnait à l'intérieur de la cellule familiale. Nous allons écouter la voix de Marie Laurencin.
Ah. La mode me faisait beaucoup rêver. Les femmes très élégantes me faisaient rêver. Les femmes me faisaient rêver. Surtout quand elles avaient des jolies tailles et qu'elles marchaient bien dans la rue. Je me souviens même que je parlais tout haut dans la rue, parce que je pensais à toutes sortes de choses. Mais c'est surtout, je regardais déjà les visages et les femmes. J'habitais du côté du lycée Lamartine, où j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 20 ans. J'étais toujours dernière.
Je sais encore par cœur une chose qu'on m'a fait apprendre à 7 ans, c'est « d'où venaient les Francs ». C'est une phrase d'Augustin Thierry, assez difficile à retenir. Qu'était-ce que les Francs, ces peuples originaires de la Germanie, étaient aussi braves que les Gaulois, et comme tous ces envahisseurs du Nord, ils parcouraient les mers sur des barques légères qu'ils conduisaient à la rame, et sur ces frêles esquifs, ils bravaient audacieusement les vents et les tempêtes.
Alors je ne pouvais pas rêver. Ce n'était pas gai du tout. Je travaillais, mais j'étais dernière. Je n'étais pas une enfant douée. Même en dessin, je n'étais première qu'en géographie et en couture. J'aimais la géographie. Et toujours, j'y rêvais. J'ai toujours des atlas autour de mon lit. J'en ai même ici, à l'atelier, auprès du divan. J'ai un petit atlas. Parce que j'aime bien situer les pays et il n'y a rien qui me fasse rêver comme un pays où je sais que je n'irai jamais.
À 20 ans, je crois, j'ai dit à ma mère, j'ai quitté le lycée, et alors ma mère m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, je voudrais faire de la peinture, je voudrais apprendre à dessiner. Et ma mère a été très étonnée, mais comme c'était une femme très bien et même extraordinaire, elle est tout de suite allée chercher des cours et elle m'a emmenée dans des cours. J'ai même appris l'anatomie, j'ai même suivi des cours d'anatomie. Et d'ailleurs, je crois que je vais encore acheter un livre d'anatomie pour les animaux.
Quel est le poète qui, pour vous, représente peut-être le mieux la douceur ?
À peu près tous les poètes.
À peu près tous les poètes. Oh, il y a les poètes qui ne sont pas très doux.
Mais c'est parce que j'étais entourée de gens, je ne dirais pas des durs, mais des gens qui n'étaient pas précisément des doux. Alors je recherchais la douceur. C'est comme lorsque je peins, si je fais un château, j'aime beaucoup faire les châteaux, parce que probablement parce que je n'en ai pas, et c'est beaucoup mieux de les faire en peinture. Eh bien, ils ont toujours de l'eau. Et je mets une sirène, ça c'est un peu Henri Haine qui m'a inspiré les sirènes. Mais il y a aussi un vers de Guillaume Apollinaire, « Sirène, tiriez aux mers la langue ». Et je peindrai toujours une sirène en pensant à ce vers.
En pensant à ce vers d'Apollinaire.
D'Apollinaire. Je ne l'ai jamais retrouvé, d'ailleurs. On me l'a dit avant 1914, je m'en suis souvenue, mais je ne peux plus savoir dans quel poème il est. C'est-à-dire, je crois que la peinture est très voisine de l'écriture. Et comme me disait Eugène Montfort, tous les peintres écrivent très bien. Ce qui est un petit peu vrai, quand ils s'en donnent la peine.
Oui, oui, bien sûr.
Et alors là, j'ai encore des restrictions. C'est que je crois qu'un peintre qui n'est pas capable d'écrire, ça n'est pas pour moi un peintre. Parce que tout de même, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Delacroix et puis bien d'autres ont écrit. Et des belles choses.
Et des très belles choses. Oui. Et Marie Laurencin a écrit quelques poèmes.
Oui.
Oui.
Mais oui. Donc elle n'est pas enthousiasmée.
Pourquoi ?
Oh ben parce qu'on n'est jamais très enthousiasmée d'elle-même.
Même elle de votre peinture ?
Oh non ! J'ai toujours peur quand j'ai fini un tableau. Je trouve qu'il est indigne. Enfin, je trouve que c'est pas bien.
Marie Laurencin, quel personnage et quelle figure qui a été très importante dans votre histoire et qui était très présente chez votre mère.
Très présente. Mais c'était Zazie, Marie Laurencin. Exactement Zazie dans la vie, dans la peinture, avec les poètes. C'est une petite fille, vous avez entendu sa voix d'ailleurs. Elle a eu cette voix-là jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, sa mort. Et elle était une grande amie de ma mère, et je les soupçonne d'avoir été un peu plus que des amies.
Des amantes ?
Oui, parce que c'était les années folles, vous savez, et que Colette a eu aussi des hommes et des femmes. C'était accepté à ce moment-là. Mon père trouvait ça charmant. Il aimait mieux ça qu'un monsieur. Après tout, c'était une dame. Elle pouvait pas faire grand-chose ensemble, d'après lui. Et je l'ai jamais considérée comme une adulte. C'était vraiment une petite fille. Mais j'étais tellement émue que Apollinaire l'ait aimée. Parce qu'on respectait beaucoup les poètes chez moi, qu'Apollinaire était parmi les très grands, que mes parents avaient connus un petit peu avant qu'il ne meure de la grippe espagnole à la fin de la guerre. Mais elle ne pouvait pas m'influencer en quoi que ce soit, parce qu'elle n'était pas sérieuse. Elle disait des choses légères, folles, bébêtes. Elle a toujours aimé les hommes et les femmes, mais les hommes aussi. Et je crois qu'elle a appris à ma mère, qui était terrorisée à l'idée qu'il fallait se livrer à un homme, elle trouvait ça épouvantable. Sa mère lui avait dit « Tu vas saigner, ma petite fille, il faut subir ce que te fait l'homme. » Enfin, une éducation sexuelle presque à l'envers. Et quand elle a vu qu'on lui mettait une alaise sous les draps le soir de son mariage, la veille du mariage, c'était une maîtresse femme et elle s'est dit « Je ne vais pas me laisser sacrifier sur l'autel du mariage et je ne saignerai pas. » Et quand elle a vu apparaître la panoplie de l'homme, Elle avait un frère qui avait 20 ans de plus, elle avait 3 sœurs, elle n'avait jamais vu d'homme tout nu. C'était l'époque où il n'y avait pas d'éducation du tout. Elle a dit, mais où tu crois que tu vas mettre ça? Eh ben, le pauvre, il s'est engagé à la guerre de 14, sans avoir mis ça. Et je suis née que 6 ans après. Donc, à mon avis, pendant toute la guerre avec Marie, elles sont parties comme deux petites filles, sauf que ma mère était beaucoup plus organisée, beaucoup plus mûre et ambitieuse. Et je suis née qu'après, parce qu'elle a été voir un gynécologue en me disant « Je suis pas faite pour faire l'amour. » Il a dit « Mais si, madame, vous êtes normale, ça se met où je vais vous montrer. » Alors elle a bien été obligée de reconnaître qu'elle était normale et elle n'a plus pu dire à son mari quand il est revenu en 18 « J'ai quelque chose qui ne va pas, retire-toi. » Je crois qu'il y avait beaucoup de femmes frigides et que ça rassurait les maris. Ils trouvaient le plaisir avec des gourgandines, dans des maisons closes, avec des petites amies. Mais leurs femmes, ça les inquiétait. Une femme honnête n'a pas de plaisir, santé Jean Ferrat. Et il a tout de même fait 2 ou 3 enfants à ma mère. Ça se passait normalement, je crois que c'était comme ça. Alors qu'avec une femme, c'était charmant, c'était des caresses. Ça ne portait pas à conséquence, il n'y avait pas de suite d'enfants. Et je m'en suis aperçu qu'après, on recevait beaucoup de femmes à la maison, des femmes antiquaires, des femmes indépendantes, pas du tout aux masses, très belles en général.
Et ça excitait plutôt votre père, de voir votre mère séduite
oui,
par ce tourbillon de
il
femmes.
Il trouvait que c'était sans importance, il aimait beaucoup Marie-Laurencin, il a beaucoup aimé toutes les dames qu'on recevait à la maison, des hommes aussi, parce que ma mère adorait séduire. Ce qu'elle n'aimait pas, c'était ce qui suivait la séduction. Mais bon, elle nous disait à nos filles, bon, c'est la galipette, il faut y aller. Parce que sans ça, tu n'assois pas ton empire sur un homme, si tu n'acceptes pas cette partie-là. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. On a reçu une drôle d'éducation à ce point de vue-là.
Dans cette éducation, il y avait aussi l'amour de la littérature.
Oui.
Qui, très jeune, vous a emporté dans votre imaginaire.
Ça a surtout été une question d'obéissance au départ. Quand on a eu 12 ans, ma sœur et moi, elle nous a dit « Tous les soirs, mes filles, j'exige que vous vous laviez les dents et que vous écriviez votre journal. » Alors on a commencé à écrire notre journal et quand est arrivée la guerre, tous les soirs, on écrivait 2 ou 3 pages de notre journal, Flora et moi. Et c'est ce qui nous a fait entrer en littérature, puisque le journal à 4 mains, la vie quotidienne, ce qu'il y avait comme ticket de fromage, ticket de viande chaque jour qui était libéré, les défaites en Russie, les défaites de l'armée russe, le drame des prisonniers, tout ça a été rapporté par 2 petites jeunes filles qui, elles, continuent à penser au prince charmant, parce que les jeunes filles pensent toujours « un jour mon prince viendra », comme on chantait tout à l'heure.
Parmi les écrivains qui ont beaucoup compté pour vous, Benoît de Groult, il y a eu André Gide. Nous allons écouter sa voix.
Ah, ça m'émeut. J'avais souhaité d'être juré. J'ai attendu d'être nommé, puisque c'est le hasard qui nomme. J'ai attendu, je crois, 6 ans. Et j'estime que c'est une expérience que tous les romanciers devraient faire. Absolument, je l'ai dit, comme en fait une classe de rhétorique ou de philosophie, de prendre contact direct et actif avec les tribunaux. Je crois que c'est une expérience irremplaçable, et de se sentir des responsabilités en la circonstance. J'ai cherché une expérience profonde, intime. Je l'ai dit, les tribunaux m'avaient toujours beaucoup attiré. J'étais presque un habitué de les cours d'assises, ou de la police correctionnelle, non seulement à Paris, où j'y allais souvent, mais à l'étranger. Et je souhaitais y prendre un rôle actif. Il n'y a pas pour moi d'actes vraiment gratuits, d'actes immotivés. Je me souviens d'avoir cité le cas d'un incendiaire où le président du tribunal faisait questionner ou questionnait lui-même le malheureux coupable et ne parvenait pas à lui faire reconnaître pour quel motif il boutait le feu à sa propre ferme. Et il était évident qu'il y avait là une motivation psychologique d'ordre qui échappait complètement à la compétence commune et des jurés.
Qu'est-ce qui vous plaisait en André Gide? C'était celui qui, justement, profitait de chaque situation de la vie. Là, il s'exprime sur l'expérience d'un jury d'assises dont il a fait effectivement une de ses œuvres principielles. Est-ce que c'était plutôt le Gide sensuel de Nathanaël ou est-ce que c'était
oui.
plutôt le Gide politique?
Non, c'était Nathanaël à cette époque. C'était les nourritures terrestres. Il était très à la mode chez les jeunes gens et cette façon de dire l'importance n'est pas dans la chose regardée, elle est dans ton regard, c'était dire à chacun qu'il doit être passionné, quel que soit l'objet de sa passion. c'était quelque chose qui vous incitait à jouir de la vie, des paysages, de la terre, des hommes, enfin de tout ce qu'on rencontre. Ça m'a beaucoup marqué, parce que moi qui étais plutôt renfermée, timide, ça m'a aidé à m'exprimer et à être fière de mes désirs, en somme.
Mais c'est drôle parce que des années plus tard, quand j'étais jeune fille, effectivement, nous apprenions aussi dans les cours des lycées de jeunes filles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de lycée mixte. Oui. Nathanaël Parker, c'était comme une sorte de passeport pour la liberté, à la fois intellectuelle et sensorielle.
Exactement, pour la liberté de mœurs, pour la liberté vis-à-vis de la morale chrétienne, que j'avais subie toute ma vie, alors que je voyais arriver l'aumônier dans notre école de filles, parce que bien entendu, à mon époque encore plus, il y avait des écoles de filles, l'aumônier arrivait pour dire la messe 3 fois par semaine, et il amenait avec lui 3 petits enfants de cœur, qui étaient des garçons. On était 400 petites filles, et aucune d'entre elles n'était sans doute jugée assez pure, assez créature de Dieu finalement, pour approcher de l'autel. Je sais que c'est le premier ferment de féminisme qui est entré dans ma tête. Je me disais, mais comment ça se fait? Nous ne sommes pas jugés dignes même de servir la messe, alors qu'on est des servantes dans la vie. Bref, on était rejetés par l'Église. Et ça m'a poussé à perdre la foi, évidemment, cette absence des femmes dans les religions. Pas de femmes prêtres, encore aujourd'hui, alors qu'on manque de prêtres affreusement dans les diocèses. Aucun pape n'a encore jugé bon d'ordonner des femmes prêtres, comme si on n'avait pas le droit d'approcher de Dieu.
Vous êtes devenue mère, Benoîte, avec un homme qui sans doute vous a aimé, même si le mariage a duré très peu de temps, qui vous a donné, puisque ce sont les termes usuels en français, c'est d'ailleurs assez choquant, qui vous a donné 2 enfants.
Oui, c'était d'autant plus choquant que je ne voulais pas d'enfants tout de suite. Je voulais faire ma situation, enfin, et j'étais enceinte sans arrêt.
Et c'était des filles.
Et en plus, quand j'ai eu ma première fille, il m'a dit, t'en fais pas mon chéri, on recommencera. Comme si j'avais rien fait, que là c'était un coup pour rien. Et puis pour mon second accouchement, il était au Groenland avec Paul-Émile Victor, puisqu'il était grand reporter à cette époque, et on lui a téléphoné, mon pauvre vieux, c'est encore une fille. Il m'avait laissé que des noms de garçons. Il me disait, de Cône, il faut que ce nom continue, il faut donc que j'ai un fils. Tu ne m'imagines pas avec 2 filles. Eh ben si, ça sortait. Vous avez une belle petite fille. On disait, merde. C'est-à-dire que la pauvre petite était accueillie par une injure dans la vie.
Et ça, vous le ressentiez très fortement, parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer à quel point les femmes ont fait l'objet d'opprobre de la part de l'opinion publique.
Mais vous savez, Françoise Giroud le raconte dans son livre. Son père a dit, c'est une fille sans intérêt. Allez, on n'avait plus d'ambition pour une fille, alors que Dieu sait qu'elle a été une femme intelligente, remarquable, qui a réussi sa vie. Mais quand elle est née, c'était aussi, mon Dieu, encore une chose inutile. Et Marie Cardinal l'a raconté aussi, beaucoup, beaucoup de femmes de cette époque.
À partir de quel moment avez-vous construit votre véritable identité, Benoîte Groult? Est-ce que c'est justement le fait d'être mère et d'avoir un rapport très proche avec vos 2 filles? Ou est-ce que c'est votre indépendance intellectuelle, votre liberté de ton qui petit à petit et progressivement ont construit votre propre liberté?
J'ai mis très longtemps à la construire. D'abord, vous savez, j'étais professeur de latin à 25 ans et je n'avais pas le droit de vote. On se dit, mais même les femmes turques avaient déjà le droit de vote. Toute l'Europe, bien sûr, sauf la Grèce et le Liechtenstein, je crois. Mais j'avais pas le droit de vote et je me suis pas dit, mais il faut qu'on se batte. D'abord, le mot féminisme, on n'en parlait pas. Simone de Beauvoir n'avait pas encore écrit Le deuxième sexe. Elle l'écrira 4 ans après. Et puis, elle ne croyait pas au féminisme. Elle pensait que le socialisme allait apporter l'égalité, la justice, un état idéal. Alors elle n'entraînait pas les femmes à se réunir, à se battre. Alors j'ai mis très longtemps à me guérir de tout ça, de l'idée que les professions régnantes n'étaient pas pour moi. Et puis quand on a écrit notre premier livre, ou nos 2 premiers livres, ma sœur et moi, on était considérés comme doublement littérature féminine, donc littérature de second ordre. Et les titres des articles, c'était « Quand ces dames échangent le plumeau contre le stylo ». Et quand on est passé chez Pivot, ils groupaient les femmes, on était un troupeau de dames. On n'était pas affrontés à des hommes qui, eux, écrivent de la belle littérature par définition. Et nous, on ne pouvait écrire que des petites histoires sentimentales. Ça finit par vous peser sur l'ambition, sur le plaisir d'être, sur l'écriture aussi, sûrement.
Vous venez d'évoquer Simone de Beauvoir. La publication de son livre a été un véritable coup de foudre dans le monde intellectuel. Nous allons écouter sa voix.
Je trouve que le problème des prostituées ne regarde pas d'abord les hommes, mais d'abord les femmes. Bien entendu, il regarde les hommes aussi, mais il regarde les femmes. Et en tant que je m'intéresse vraiment à tous les aspects de notre condition, eh bien je m'intéresse à la condition des prostituées.
C'est tout, madame. Nous sommes dans un restaurant, nous sommes traqués. Nous sommes dans la rue, nous sommes traqués toujours. Alors il faut une fois pour toutes s'en sortir.
Je suis assez solidaire de la majorité des femmes pour savoir qu'en effet, pour un très très grand nombre d'entre elles, si ce n'est pas la prostitution, c'est du moins une espèce de ou de vente de leur corps, comme très souvent dans la bourgeoisie où la femme vit simplement au crochet de son mari et donne son corps en échange, ou en tout cas une dépendance de l'homme qui fait que la femme n'est pas libre de vivre comme elle le souhaiterait. Et cette demi-vente de son corps et en tout cas cette subordination apparente en effet un très très grand nombre de femmes à la prostituée. Je ne dis pas toutes, mais enfin certainement un très grand nombre. C'est la société qui est responsable de la prostitution. Et ça je l'ai pensé, je le pense encore aujourd'hui, et par conséquent puisqu'elle en est responsable, puisqu'elle la veut, puisqu'elle contraint certaines femmes, elle les accule à ce choix, eh bien elle devrait alors accorder aux prostituées des conditions de vie convenables et en tout cas ne pas les brimer, ne pas les empêcher d'exercer correctement leur métier.
Les mettre en prison. Bon, maintenant nous allons aborder une question délicate mais qui est très importante, celle du caractère soi-disant scandaleux de votre œuvre. Défendez-vous.
Eh bien, ça n'est pas de ma faute si en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je fais remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Ce sont naturellement ces pages-là dont on s'est le plus occupé et qu'on a le plus lu, et peut-être qu'il amuse le plus les gens, mais il y en a une très grande quantité d'autres qui sont consacrés à tous les problèmes du travail, du ménage, du cœur, des sentiments,
même de, la maternité,
de l'intellectualité également de la femme, oui. Etc., etc. Enfin, et vraiment, oui. Ça n'est pas du tout une spécialisation.
C'est pas que la question sexuelle, c'est certain. Mais je crois que aussi, ce qui a pu paraître justifié, ce qui n'est certainement pas mon avis, mais enfin, l'idée du caractère scandaleux de ce livre, c'est enfin le goût. Comment dirais-je, le goût de précision et de logique que vous avez, certainement, et qui vous a engagé, mon Dieu, à employer les mots qui veulent dire, qui veulent représenter les choses dont il s'agit, n'est-ce pas ? On vous a accusé, en un mot, d'avoir quelquefois un langage tout à fait réaliste, sinon même cru.
Oui, et on a trouvé très comique la juxtaposition d'un vocabulaire vraiment scientifique, technique et cru, avec un vocabulaire philosophique. Mais ça prouve, à mon avis, une double chose. C'est d'abord que les questions sexuelles, on ne considère pas en France qu'on puisse en parler comme de choses sérieuses et que ce sont uniquement des espèces de plaisanteries de collégiens. Et ça prouve d'autre part qu'on n'admet pas que la philosophie soit quelque chose de vivant. Or, au contraire, pour moi, on doit parler de la sexualité comme on parlerait de n'importe quelle autre réalité humaine. Et la philosophie est faite justement pour parler des choses les plus communes, les plus courantes. Et il n'y a aucun paradoxe à avoir parlé sur deux registres en même temps, oui, de cet ordre de fait, puisqu'il se situe vraiment sur deux ordres de réalité
humaine.
Sur deux
plans différents, oui, parfaitement.
Coup de tonnerre intellectuel que la publication de ce livre de Simone de Beauvoir.
Oui, mais pas en France. Hein. Elle a été mise à l'index sur ordre du Vatican. Alors, il y avait tout de même encore en France un côté très bien pensant et conventionnel. Et quand on a vu qu'en Amérique, où les études féministes étaient beaucoup plus avancées...
Et le sont toujours encore aujourd'hui.
Et le sont toujours encore aujourd'hui, oui. Et eh bien, c'est revenu presque en boomerang. Et en France, ça a été vraiment rejeté par Albert Camus, par Mauriac, qui a dit « Madame de Beauvoir nous parle de son vagin, c'est dégoûtant ». Alors que c'est pas dégoûtant. Eux parlaient bien de leur pénis ou du phallus, qui est un mot noble. Mais le vagin, c'était encore du temps du monologue de vagin. C'est un mot qui est dur à accepter. Et puis elle avait cette espèce de dureté qu'on entend dans sa voix, une voix d'institutrice qui n'était pas chaleureuse. Je dois dire que j'étais beaucoup plus émue par Virginia Woolf quand elle a écrit Une chambre à soi. J'ai trouvé qu'elle s'adressait à moi personnellement, intimement. Alors que Simone de Beauvoir donnait des leçons. Et il nous a fallu le temps pour les accepter, pour comprendre qu'elle travaillait pour nous aussi, même s'il y avait un ton qui pouvait nous refroidir au départ.
Et puis à la relecture de ce texte, on s'aperçoit aussi qu'il y a des parties, notamment celles consacrées à la maternité, qui excluent effectivement pour les femmes qui sont mères la possibilité d'être véritablement libres.
Oui, là-dessus, elle avait une position assez... Vous savez, elle a écrit, elle est née en 1912, je crois. Elle datait de l'autre siècle, presque du 19e siècle, avec une réticence contre la maternité, soi-disant toujours heureuse, et c'est vrai qu'elle l'a dépoétisée complètement, la maternité. Je ne sais pas si elle a vraiment choisi de ne pas être mère, ou si elle ne pouvait pas l'être, mais c'est quelque chose qui manquait à sa figure, je trouve.
Mais elle a connu l'amour.
Ah oui.
Et plusieurs amours.
Et en même temps, elle donne l'exemple d'un couple avec Sartre, vivant avec une liberté réciproque, qu'ils ont été prêts à accepter chez l'autre, dans les deux sens. Mais en même temps, elle est morte à côté de lui. Enfin, il est mort à côté d'elle, plus exactement. Elle s'est mise dans son lit pour l'accompagner dans la mort, la première nuit de son agonie. Elle a formé un couple extraordinaire. Et inimitable, couple, et très, ouais. Très difficile.
Et un couple intellectuel aussi.
Oui.
Et quand elle a eu son histoire d'amour avec Nelson Algren, et que oui. Nelson lui demande de venir vivre aux États-Unis, ce qu'elle fait d'ailleurs dans un premier temps.
Oui.
Et après, quand Sartre lui écrit à Simone « J'ai besoin de toi, reviens », eh bien, elle va rompre. Oui.
Et elle lui écrivait des lettres. C'est délicieux de voir ces lettres, mais malheureusement, elle les a publiées assez tard, ou elles ont été publiées assez tard, après sa mort d'ailleurs. Et elle signe « Ta petite grenouille ». Alors l'idée que Simone de Beauvoir ait pu être la petite grenouille d'un homme, ça montre qu'elle avait aussi cet aspect féminin qu'elle réprouve dans beaucoup de ses écrits. Mais c'est bien qu'elle ait pu vivre aussi l'amour où on est éperdu d'amour pour un homme.
Mais c'est ce qui vous est arrivé à vous, Benoît.
Oui, mais ça m'est arrivé jeune. C'était avec un Américain. Mon histoire d'amour que j'ai racontée dans « Les vaisseaux du cœur ». Et quand il m'a demandé en mariage, comme plusieurs de mes amis ont été demandés en mariage par des Américains, quand elles parlaient très bien anglais, qu'elles ont pu établir une relation, j'ai plusieurs amis qui sont partis vivre en Amérique. Mais l'idée de quitter la France, où je commençais à travailler à la radio, à écrire, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais en Amérique avec un pilote qui va me parler de son moteur d'avion? Qu'est-ce que je répondrais? Il ne sait même pas qui est Louis XIV, Voltaire. Je pensais que je mourrais de faim psychique, intellectuelle, et que même si je l'aimais, c'était une bêtise à ne pas faire. Ça se finirait mal. Et donc, j'ai pas voulu l'épouser, mais on s'est retrouvés 10 ans après par hasard, et on a retrouvé la fougue de nos 18 ans, le coup de foudre qu'on avait eu à 18 ans, et on était mariés tous les deux avec des enfants, chacun de son côté. Et on s'est dit, est-ce qu'on a le droit de laisser de côté dans la vie quelque chose d'aussi fort et qui nous rassemble au-delà des différences intellectuelles? C'était un homme très sensible, d'une bonté, d'une générosité folle. Et bon, on a décidé de garder cet amour-là en plus de nos vies conjugales. Et comme on a eu la chance d'avoir des métiers, lui était pilote, il pouvait donc circuler facilement... J'en ai fait un marin pêcheur dans mon livre parce que j'ai changé un peu les choses. Et moi, je faisais déjà des voyages intellectuels. Enfin, j'étais invitée à une conférence dans une université pour parler du féminisme, d'ainsi soit-elle, etc. Alors, on pouvait se rencontrer, quelquefois 3 semaines par an, quelquefois 1 semaine.
Mais comme Simone de Beauvoir, au fond.
Finalement, oui. Mais...
Avec son Nelson.
Oui.
Vous, c'était votre pilote.
Oui. C'est-à-dire que c'est plus dur pour les hommes de supporter la liberté de leurs femmes. Les femmes sont habituées aux errances d'un homme. On sait depuis des siècles, soi-disant, que les hommes sont polygames. Mais on ne savait pas que les femmes pouvaient l'être aussi.
Et vous avez beaucoup souffert quand vous êtes tombée amoureuse de Paul Guimard, votre dernier mari.
Oh, j'ai beaucoup souffert, n'exagérons pas.
De ces tromperies, comme on disait autrefois.
La jalousie, on n'en fait pas l'économie. Quelles que soient les théories intellectuelles et la rigueur qu'on a et la générosité qu'on a. Alors, évidemment, j'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, sur la jalousie, qui s'appelle Féminin pluriel.
Très beau titre.
Oui, ben oui, c'était tellement ça. Mais je ne détestais pas l'autre femme, j'en voulais à mon mari et pas à l'autre femme. Elle était libre, elle faisait son travail d'amoureuse, son plaisir d'amoureuse. Eh bien, je l'ai vécu parce qu'on avait signé un peu le contrat de Sartre et Beauvoir qui nous épatait. On ne connaissait pas encore Nelson Algren, qui est venu d'ailleurs plus tard dans sa vie, à Simone. Et ben oui, ça a été très dur, mais je crois que toute vie avec quelqu'un est très dure. Je suis sûre que si je m'étais interdit toute passion, toute curiosité autre que l'homme avec qui j'étais mariée, j'aurais très mal vieilli.
Mais vous avez eu une très belle vie avec Paul, une vraie vie d'amoureux.
54 ans ensemble, ce qui est aussi une vraie vie. Mais on a quelquefois pleuré. Je suis sûre qu'il a été malheureux de voir arriver toutes les semaines pendant mes 20 dernières années une lettre de mon ami américain. Mais enfin, mon amant habitait de l'autre côté de l'Atlantique. C'est tout de même assez rassurant. Mes rivales, elles étaient de l'autre côté de la rue. C'était souvent mes meilleures amies. C'est difficile d'accepter la liberté de l'être avec qui on vit.
Aujourd'hui, Paul a disparu. Je crois que vous avez conservé une maison où vous viviez avec lui au bord de la mer. Vous êtes une amoureuse passionnée de la mer.
Oui,
une grande navigatrice, de la pêche.
Oui. Et même
qu'espérez-vous de la vie aujourd'hui?
On était un équipage. C'est parce qu'on aimait la mer tous les deux qu'on a pu être un équipage et traverser la tempête. Alors qu'avec Georges, on ne formait pas un équipage, on n'avait aucun goût commun, on n'aimait pas les mêmes poètes. C'était une gageure de réussir un mariage comme ça. Il aurait fallu être soumise et obéissante, comme beaucoup de femmes l'étaient à cette époque. Mais ma mère m'avait tout de même semé des ferments de désobéissance, de liberté, et ça m'a beaucoup aidée sur le tard.
Plus vous avancez dans la vie, Benoît de Groult, plus on a l'impression que vous rajeunissez et que vous êtes pleine de gourmandise.
Plus maintenant, tout de même. Quand je vois mes filles qui atteignent 60 ans, enfin 2 sur 3, et qu'elles parlent de la vieillesse, toutes les trois, je me dis, mais pauvre chérie, vous savez pas ce que c'est que la vieillesse. Parce que 60 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. On peut encore changer de vie, être amoureuse, faire des études, commencer autre chose. Et 70 ans, c'est la maturité de la vieillesse, mais 90, où j'arrive maintenant, ça, c'est sans appel, c'est la vieillesse de la vieillesse.
Ben c'est peut-être le début d'un nouveau cycle. Hein.
Oh, mais qu'est-ce qui arrive de neuf? On renonce au ski, on renonce à prendre le métro le soir pour pas se faire bousculer. Oh non, il n'arrive plus rien de séduisant.
Faites-vous accompagner par vos petites filles?
Ah, mes petites filles, ça va pas du tout parce que je n'ai pas d'internet. Je ne sais pas envoyer un SMS, donc je suis une nulle du Moyen-Âge.
Je vais vous apprendre, parce que je suis nulle aussi, mais même le SMS, je sais faire. C'est très facile. Je vais vous apprendre à la sortie du studio. Merci infiniment.
Merci aussi de m'apprendre.
Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.